et grande gueule. Les GG vous saluent, nous sommes lundi, nous sommes en direct bien évidemment avec vous au 32-16, on vous attend pour réagir. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les grandes gueules, Abel Boyer l'éducateur, bonjour Abel.
Salut les amis.
Nous sommes avec Bruno
Magnifique
Poncet.
Magnifique veste. Hein,
on est vraiment
l'élégance à la française.
S'il te plaît, silence.
C'est pas une veste, il a le costard entier.
Mais comme jamais, mais ouais regarde, c'est le représentant de l'élégance.
Il est arrivé avec des carreaux. Au départ, avec Olivier, on a eu un peu peur pour les rectifs de nos caméramens et des gars en régie, mais finalement, ça va, ça passe. Ça
attention,
passe.
Bon. Nous, on a vu les godasses, par contre, on lui a dit, les godasses, non.
Mais
non.
Pour ceux qui ne sont pas devant RMC
Story,
quand on
connaît la sape, on ne met pas des chaussures comme ça.
Il faut décrire, c'est le retour du prince de Galles, en fait.
Alors, il a c'est une espèce de prince de Galles, c'est du carreau, il y a un peu de marron, il y a un peu de bleu ciel. Non, les pompes, c'est des baskets blanches.
Ah non,
oui. Par contre, habillé toujours sweatshirt noir, jean et des Nike, c'est l'ami Bruno Poncet, le cheminot.
C'est la classe au naturel.
Voilà. Excusez-moi, je ne vais pas avoir besoin d'un Abel, lui, comme ça au naturel. Moi, je l'ai vu en vrai.
La classe de vie.
Voilà, c'est comme ça, et je ne me déguise pas pour venir à la télé. Je suis pas hypocrite, je dis ce que je pense et je m'habille comme je suis. Donc voilà. Par contre, moi, je dois tellement être habillé comme Abel. Je ne sais pas s'ils font ma taille.
C'est le mec le mieux sapé de Vierzon, hein, Bruno Poncet. Hein.
Ah non, Vierzon, il y a des gars comme Abel, faut le savoir.
Vrai,
j'ai un ami, il s'habille comme Abel.
Aïe. Sapeur.
Ah non, mais franchement, ce matin, il nous a ébahi, Abel.
Ah, carrément.
Avec son beau costard.
Si Barbara Lefebvre est ébahie.
Mais encore une fois, je t'ai dit, les godasses, ça va pas.
Elle est ébahie, mais elle n'est pas sans voix.
C'est une basket avec le costume.
Non, tu te sapes jusqu'au bout des pieds.
Qu'est-ce qui va sortir?
Non, mais côté grol en cuir, en général, il a ce qu'il faut.
Ah oui, oui. Mais oui, c'est pour ça que tu as des super belles godasses.
Je dois en avoir une quinzaine.
Le mec, il est bon pour faire un footing.
Ce qui manque, c'était des pompes en Suède. L'autre fois, il avait des petites pompes bleues en Suède. Très, très belles.
Après, il met 3 heures le matin.
Ah bah attends.
Moi, avec ma veste vintage, évidemment, je suis complètement à côté de la plaque.
Mais simple, mais de
très bien, mais très bien.
Oui,
moi, ça fait 10 ans que tu l'as, mais très bien.
À peu près, voilà. Et ben voilà, ça recycle.
De quoi va-t-on parler dans les GG, dans les grandes gueules? On parlera des stations-service qui sont en rupture de carburant, avec un gasoil qui est au-delà de 2,50 €, et peut-être qu'on va arriver à 3 € plus rapidement que prévu. Des cartes resto qui seront utilisables dimanche. Il paraît que les restaurateurs font les tickets restaurants, ils font la tête. On reviendra sur la manifestation antiraciste de Saint-Denis. Mais d'abord, on va commencer par s'intéresser à Fresnes, ou plutôt aux casseurs de Fresnes. Vous vous souvenez, on avait montré cette petite bande qui avait saccagé l'entrée de la mairie de Fresnes. Ensuite, on avait parlé de leur interpellation. Eh bien, on s'est aperçu finalement que 2 casseurs de la mairie de Fresnes, moins de 24 heures après avoir été interpellés, ont ensuite été mis en examen, relâché et de nouveau interpellé.
Oui, c'est incroyable, ces 2 ados. Alors, il y en avait 10 au départ, on en a pris 2. Donc, ces 2-là ont été relâchés assez rapidement. Ils étaient interpellés, ils étaient sous contrôle judiciaire jeudi. Et dès le vendredi, ils sont de nouveau interpellés. On les a retrouvés en train de caillasser une voiture de police avec d'autres jeunes. Donc, retour immédiat en garde à vue. Visiblement, les avertissements judiciaires ne font pas trembler ces 2 jeunes mineurs. Oh. On apprend quand même dans le détail que le parquet avait demandé pour l'un des 2 le placement dans un centre éducatif fermé. Et le juge pour enfants a refusé. Il a dit qu'il fallait des mesures éducatives. Alors, visiblement, ces mesures éducatives ne font pas peur à ces jeunes qui sont, semble-t-il, connus du quartier, comme des dealers, en fait, comme des types qui zonent dans une résidence. D'ailleurs, ils n'y habitent pas dans cette résidence, mais ils sont toujours là, souvent habillés en noir et avec des capuches. Etc. Bon, on connaît ce genre de profil. Oh. Mais est-ce qu'une fois de plus, la justice ne se trompe pas dans sa réponse? En tout cas, on a la récidive immédiatement. C'est-à-dire, 24 heures après, on les reprend en flagrant délit, en train de commettre un délit.
Abel.
Tant qu'on ne réalise pas qu'il y a des jeunes qui ont un total sentiment d'impunité et qui sont déjà formés par des pseudo-grands frères en carton à comment abuser des failles du système, on n'y arrivera pas. Moi, je ne cesse de répéter comme un perroquet que commencer la prévention ou les pseudo-mesures éducatives. À 16 ans, c'est beaucoup trop tard. Ouais. Et quand on voit que quelques jours à peine après avoir été gaulé pour avoir saccagé une mairie,
ah ben
il recommence,
jours, le lendemain.
Ça veut dire que c'est fini. Et moi, je le dis très cash, il y a des jeunes qui sont irrécupérables. Et moi, qu'est-ce que je dis aux jeunes souvent quand j'interviens ? Déjà, un, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Et si tu veux jouer au con, eh ben, faut pas t'étonner de passer par la case police, prison. Et si tu ne réagis pas, ben, peut-être qu'il y a la case mort qui arrive dans les cas les plus durs.
Il connaît bien ce système. Pourquoi le juge ne suit pas le parquet, ne place pas l'un des deux, qui était peut-être le meneur, je sais pas, en centre éducatif fermé?
Parce qu'en France, il y a toujours ce côté de vouloir donner une deuxième chance. Et en plus, ce qui est paradoxal, c'est que ces jeunes, ils font les caïds quand ils sont avec leurs potes parce qu'il y a l'effet de bande. Quand ils sont au commissariat, souvent ils chialent, hein. Ils sont tout mignons. Quand ils sont devant le juge, ils sont tout mignons. Et puis c'est maman peut-être qui galère, papa qui est absent et j'ai beaucoup souffert et tout. Nous-mêmes, quand on est éducateur et qu'on se retrouve face à des cas comme ça, on est tenté, mais faut avoir du sang-froid. Et le problème, c'est qu'en réalité, avec des jeunes qui sont au stade de la prévention, parce que je parle toujours de la prévention, de la sanction et de la répression, eux plutôt, ils sont au stade de la répression, eh ben, il faut des sanctions très fortes, même s'ils sont mineurs. Sinon, on n'y arrivera pas, c'est le chien qui se mord la queue, et en plus, quand c'est comme ça, le message qui est envoyé à leurs amis aussi. C'est-à-dire, allez-y, vous allez ressortir, vous prenez un contrôle judiciaire, le contrôle judiciaire, ça veut rien dire. Un jeune, il dit, je suis sous contrôle judiciaire, ça lui parle pas.
Oui, ouais. C'est pas une sanction.
Mais oui, ça veut rien dire.
Ah oui, c'est même derrière de s'en prendre directement à une voiture de police, c'est bel et bien montré qu'ils n'ont peur de rien, Barbara.
Oui, et puis s'attaquer à la police en même temps, comme ils baignent dans une ambiance où on leur répète toute la sainte journée, la police tue, la police est raciste, machin. Donc, bah ouais, ça leur paraît tout à fait légitime de s'en prendre à une voiture de police. Ils voient un policier, allez, on caillasse, etc. Je rappellerai que la justice, les juges pour enfants en particulier, sont effectivement toujours dans la justice pour mineurs. Il y a le mineur à protéger. Le mineur victime, le mineur à protéger, il y a le mineur délinquant. Il y a, quand on a un mineur délinquant, il peut y avoir des dimensions éducatives aussi. D'accord? Le problème, c'est quand le prisme éducatif prime sur tout. C'est-à-dire que, bien entendu, un mineur doit être préservé aussi et protégé, mais ceux qui doivent d'abord être protégés, c'est les victimes et c'est la société. Je rappellerai que les deux assassins d'Elias étaient connus, archi connus des services de police. Ils avaient commis plus d'une dizaine de vols avec violence, dont 7 qu'ils avaient commis ensemble. Il n'y a jamais eu de centre éducatif fermé pour ces deux jeunes. Ils étaient sous vague contre, je dis bien vague contrôle judiciaire, puisqu'ils avaient soi-disant interdiction de se fréquenter alors qu'ils habitaient le même immeuble et qu'ils étaient tout le temps fourrés ensemble. Et la preuve de l'absence totale de suivi du contrôle judiciaire, ils étaient tout le temps ensemble alors qu'ils étaient censés ne pas avoir le droit de se côtoyer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis ensemble pour aller assassiner Elias, soi-disant lui voler son téléphone. En réalité, Elias avait donné son téléphone et ils l'ont quand même tué. Donc, on voit bien où conduit, parce que là, on pourrait dire, bon, après tout, ils ont juste jeté une pierre sur une voiture de police, etc. Mais non, cette impunité de gamins, elle conduit à des passages à l'acte plus graves. C'est-à-dire que ces deux-là et d'autres, et tant d'autres au moment où nous parlons, qui sont dans la nature, qui sont relâchés et mis sous contrôle judiciaire avec une justice qui est tellement débordée qu'elle ne peut pas suivre ces jeunes, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller encore plus loin, je l'ai dit 100 fois, il faut lire les livres de Maurice Berger et d'autres pédopsychiatres, la butée éducative, c'est dans la petite enfance. Qui pose la butée éducative?
Les
parents. Oui, mais quand les parents sont déficients, les parents, excusez-moi, de ces jeunes-là, si à 17 ans ils en sont là, ils ont été déficients dans la petite enfance. Parce que c'est des gens qui ont vécu dans un milieu familial où, effectivement, absence peut-être d'autorité paternelle, une mère dépassée et souvent bienveillante, parce que c'est mon petit chéri, nous on les voit aussi dans les collèges, c'est toujours leur petit chéri. Il a jamais rien fait, c'est jamais lui. C'est comme la mère de l'autre, la Mohamed Amra. Oh, il est tellement gentil, mon fils. C'est quand même... Faut pas se mentir, 7 fois sur 10, c'est ça. La mère, elle les couvre, elle passe sa vie à les couvrir, en particulier les garçons. Donc moi, je suis désolée, il y a une défaillance familiale et il y a une défaillance de la justice qui, de toute façon, arrive toujours en fin de parcours et ne peut rien faire. Donc voilà où on en est. Encore une fois, je remets donc la responsabilité quasi exclusive sur la famille.
Et ce qui est terrible, c'est que quand c'est comme ça, tous ces jeunes, au-delà de ces deux cas, ils communiquent sur les réseaux, ils s'envoient des vidéos sur Snapchat, c'est-à-dire qu'ils se défient même. Qui va le plus défier l'État? Qui va faire les choses les plus dangereuses? Donc si on n'est pas capable de comprendre qu'un môme de 16 ans, aujourd'hui, c'est un môme peut-être de 24, 25 ans de mon époque, on va toujours perdre du temps. Il faut des sanctions extrêmement fermes, même pour les mômes de 16 ans. Je dis pas que ces sanctions n'existent pas, mais elles ne sont pas assez mises en valeur et pas assez nombreuses.
Bruno.
Comme l'a dit Abel, déjà, si tu commences à parler juste de mesures éducatives à 16 ans, 17 ans, c'est beaucoup trop tard. En fait, à ce moment-là, si tu as basculé un peu dans la délinquance, et complètement comme ça, ils ont l'air d'avoir fait, je pense pas que tu fasses des mesures éducatives. S'ils sont sortis du système scolaire, je peux te garantir que c'est fini. Hein. Par contre, oui, avant, il faut les prendre avant. Mais aujourd'hui, on pense aussi que la justice n'a pas de moyens. Mais qui donne les moyens de justice, c'est comme le législateur. Et moi, je vois pas des différents gouvernements à la suite prendre des mesures pour, à un moment donné, peut-être donner des mesures plus fortes à la justice sur des mineurs et peut-être créer des centres de rééducation ou d'éducation, je sais pas comment on peut appeler ça, mais à un moment donné, prendre des gamins qui sont border et puis ben peut-être pas envoyer des groupes, des petits groupes, et puis les mettre face à des éducateurs qui les remettraient en ligne. Et puis moi, je vais régulièrement dans des, je fais des, j'interviens dans des semaines de la citoyenneté qui anciennement étaient les TIG, où les gamins qui ont fait des conneries, donc certainement des gamins comme ça ont certainement dû passer dans des trucs comme ça. Mais on passe là-dedans, et donc les gamins, ils sont là, ils voient des policiers, des juges, ils voient des, bon, moi je suis une victime d'attentat, et voilà, et ils voient des trucs comme ça, et on fait en sorte que le gamin, à un moment donné, tu l'ouvres sur ce qui est vraiment la société, et que sa société, c'est pas son monde à lui où tu peux tout casser. Sauf que si, c'est moi quand je les vois, ils ont des fois entre déjà 16, 17 ans, voire même un peu plus de 20. Donc c'est 20. C'est un peu tard si là, tu veux remonter
en
mettant.
Le problème, c'est qu'ils ont saccagé une mairie, il y en a pour 75 000 oui. euros de frais. Qui paye. On sait très bien qu'ils ne rembourseront pas.
Bah oui.
Leurs parents, à mon avis, n'ont pas les moyens non plus de rembourser. Donc déjà, il y a espèce d'impunité. C'est-à-dire qu'on détruit et finalement, on ne répare pas.
Mm-hmm. Et pourquoi on les embauche pas?
Et c'est la collectivité qui va payer. C'est
pourquoi les habitants de Fred.
C'est les habitants de Fred qui vont devoir rembourser.
Aujourd'hui, t'as des gamins de 14-15 ans qui sont en stage en entreprise. Tu sais, les troisièmes et les secondes en stage d'entreprise. Pourquoi les gamins, tu les prends? Mais pourquoi tu les prends et tu les mets? Mais comme avant, les TIG, en fait, tu les prends.
Tu crois qu'il y a un chef d'entreprise qui a envie de s'en.
Non, je parle pas d'entreprise. La mairie, tu leur fais nettoyer ce qu'ils ont pété, tu leur fais faire mettre des carreaux.
Le problème, c'est qu'il faut les encadrer. Bah
avant, ils étaient encadrés par des policiers municipaux.
Non, mais il a raison, hein, Bruno. Hein, excusez-moi, je me rappelle d'un premier ministre qui nous a dit
tu casses, tu répares.
On en est toujours à tu casses. Et c'est qui répare? C'est les Français qui payent avec leurs impôts et les taxes d'assurance qui ont augmenté. Donc, excusez-moi, Monsieur Attal, il faudra qu'il repasse.
On a Thierry. Ah oui, bah alors dans ce cas-là, attends,
ça veut dire que Thierry en Charente, tu les prends. Et pendant
bonjour
plusieurs
Thierry.
Semaines, il répare les
dégâts. Bien sûr.
Attention, allez-y.
Bonjour à tous.
Thierry, qu'est-ce qu'on fait de ces gosses alors?
Bah déjà, de toute façon, c'est des gosses, depuis leur putain d'enfance, ils connaissent que la violence et la délinquance. Eux, casser du flic, c'est leur jeu favori, puis de toute façon, ils savent qu'ils ne risquent rien. Ça, déjà, à la base, c'est comme ça. Ces jeunes, si on veut faire quelque chose, à mon avis, il faut les extraire de leur milieu. C'est-à-dire que le jeune qui fait l'imbécile à Paris, on va aller le mettre dans un foyer fermé ou une prison, ce que vous voulez, sur le plateau du Larzac. Donc déjà, il n'aura plus de repères autour de lui. Et on va le faire travailler, on va le faire un peu corriger, on va lui apprendre ce que c'est que la vie. Parce que tant qu'ils sont en groupe et qu'ils ont leurs petits repères, leurs petits quartiers et tout.
Oui, il faut les extraire de leur milieu.
Ils se sentent intouchables. Et de toute façon, qu'est-ce qu'ils risquent? Vous allez faire deux excès de vitesse, vous allez vous retrouver en garde à vue. Eux, ils pètent une mairie, ils sont dehors et ils recommencent 24 heures après. Ça va pas, ils craignent pas. Ils ont pas peur.
Ça existe, ça, des mesures d'éloignement? C'est-à-dire qu'on les jeunes dans
un dispositif qui s'appelle l'EPIDE, par exemple, où effectivement tu as des jeunes qui vivent sous un rythme d'inspiration militaire avec l'uniforme, la levée de drapeau le vendredi, beaucoup de sport et un programme personnalisé. Et ce sont des jeunes qui n'habitent pas dans les départements où se trouvent les centres. Donc il y a une vingtaine de centres en France.
Donc, et éloignés de peut-être.
Et c'est vrai qu'il y a des résultats qui sont intéressants par rapport à ça.
L'éloignement géographique.
Il y a aussi des centres éducatifs. Moi, je vais vous.
Il avait été préconisé pour l'un des deux, mais ça n'a pas été suivi.
Je peux vous parler du cas de quelqu'un que je connais bien. Enfin, lui, je ne le connais pas, mais je connais le dossier très bien. Le meurtrier de Sarah Halimi. Le meurtrier de Sarah Halimi, il a commencé à 10 ans par un vol avec violence sur une personne âgée. Déjà, on pourrait dire. Il a tout de suite été mis, il a été pris parce que sa mère, elle était dans une situation qui était compliquée. Donc, il a été pris pendant de l'âge de 10 ans à l'âge de 15 ans. Il a été mis à l'autre bout de la France, dans des centres éducatifs. Tout a été fait, j'ai lu tout le dossier, hein, tout a été fait. Il aimait le football, on lui a fait faire du foot. Il avait ceci, on l'a encouragé. À chaque fois qu'il arrivait dans un centre éducatif, il devenait le leader d'une petite bande. Donc oui, il n'était pas avec son milieu, mais il avait ce caractère à devenir le leader d'une petite bande pour fuguer, pour voler, pour agresser. Donc il a été de centre éducatif en centre éducatif, Dijon, Pau, il en a fait plusieurs. Au final, la société a tout fait. Elle a dépensé l'argent qu'il fallait pour lui, pour le restructurer. Ça n'a pas marché, on l'a rendu à sa famille quand il avait 15 ans. Et ensuite, il a sombré dans la délinquance jusqu'à commettre l'irréparable. Donc, encore une fois, il y a des gamins qui ont des structures psychiques qui sont problématiques. Mmh. Donc que vous les mettiez en EHPAD, au moins en EHPAD, il y a une structure médicale. Mais vraiment qu'on n'imagine pas, la France, elle fait beaucoup pour un certain nombre de gamins.
On finit dans un EHPAD.
Voilà. Mais la France, elle fait beaucoup pour un certain nombre de gamins. Et il y a des gamins qui sont rattrapables. Mais il y en a d'autres où il y a des gros problèmes psychiques et qu'il faudrait sérieusement reprendre sur des structures beaucoup plus médicalisées.
Thierry propose l'éloignement et je le remercie d'avoir été avec nous dans un instant. Alors surtout qu'en plus on ne peut pas les mettre en prison. Là tu as vu, on bat un record de population carcérale. Hein. On est à 87 000 détenus, c'est du jamais vu.
On
n'a
jamais résolu le problème aussi. Non. Ça, c'est l'impression que depuis qu'on fait les grandes gueules.
Il devait en construire combien, monsieur Macron, de places de prison déjà?
50 000.
Depuis qu'on fait les grandes gueules, je pense qu'on a toujours été en surpopulation carcérale. On a toujours eu des politiques qui ont promis de construire des places de prison, de trouver des solutions, etc. Justement. Et on est toujours.
On va faire un tour en prison et je remercie encore Thierry d'avoir été avec nous. On va faire un tour en prison pour regarder ce qui se passe en ce qui concerne les conditions d'incarcération de Salah Abdeslam. Vous savez, c'est celui qui a participé aux attentats du 13 novembre 2015. La justice a demandé à ce qu'on assouplisse ces conditions de parloir Abdeslam, ce qui peut paraître assez paradoxal, parce que vous vous souvenez qu'on l'avait retrouvé avec une clé USB chargée de vidéos terroristes. Bon, bah c'est comme ça, et ça mérite qu'on en discute au 32-16, il est 9h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules sont là en direct, les amis, et on est là et on vous fait jouer et surtout on vous fait gagner. Qu'est-ce qu'on vous fait gagner? On vous fait gagner un séjour de 2 jours pour 4 personnes à Europa Park, élu 10 fois meilleur parc de loisirs du monde. Europa Park, 100 attractions, spectacles, un nouveau quartier thématique européen qui est dédié à la Principauté de Monaco. Vous avez l'univers aquatique Rue Lantica. Europa Park, pour aller passer votre séjour, vous envoyez Europa par SMS au 732-16. Europa par SMS au 732-16. Et vous passez en direct tout à l'heure à 11h20. C'est un tirage au sort. Le gagnant sera avec nous. Allez, à vous de jouer, à vous de gagner. Dans les GG, dans les Grandes Gueules maintenant, avec Bruno Poncet, avec Abel Boyi et avec Barbara Lefebvre, on va regarder ce qu'a décidé la justice administrative, c'est-à-dire d'assouplir les conditions de parloir de Salah Abdeslam.
Oui, le seul membre encore en vie des commandos meurtriers du 13 novembre 2015, Salah Abdeslam, qu'on présentait jusqu'à présent comme l'homme le plus surveillé de France. Ben, il le sera un peu moins, puisque la justice administrative a décidé de l'autoriser à nouveau d'avoir des contacts physiques, lors des parloirs. Il avait droit à des parloirs, mais c'était derrière une vitre avec un égiaphone. Là, il pourra directement avoir ce contact physique, notamment avec ses proches et notamment avec sa femme, puisqu'il s'est marié. Oubliez finalement l'histoire de la détention de la clé USB. Visiblement, le tribunal administratif estime que comme il est à l'isolement, parce qu'il reste à l'isolement, il a besoin de ses contacts physiques. Est-ce qu'on a raison d'assouplir ses visites ?
Bruno Poncet ?
Moi, déjà, je ne comprends pas pourquoi il a vendu le vieil. En fait, je pense que c'est une erreur.
C'est l'une des deux prisons censées accueillir les détenus les plus dangereux de France.
Ouais, mais tu crois pas? Moi, personnellement, ce que je vois de ça, de cette prison-là et de le fait de le mettre là-dedans, je vois que c'est plutôt un coup médiatique que fait Darmanin en disant « Regardez, j'ai fait deux prisons, soi-disant les plus surveillées de France », ce qui c'est pas vrai. Les prisons les plus surveillées de France, c'est les centrales. Et de dire, voilà, je mets ça Abdeslam, qui est le prisonnier le plus célèbre de France, je le mets là-bas. Comme ça, regardez, non, c'est une connerie. En fait, il serait dans une centrale, on parlerait pas de lui. Il serait comme Carlos. Ceux qui se souviennent de Carlos, c'était quand même un terroriste un petit peu plus compliqué et dangereux que peut être ce pauvre type. Et en fait, je pense que Carlos, jamais on a entendu parler qu'on lui filait des dossiers et que derrière Carlos, il avait monté des attentats ou qu'il allait, sa copine avait voulu en faire un. Donc moi, je trouve que Darmanin, c'est une erreur tactique d'avoir foutu ce mec-là dans cette prison, qui en plus, ça ressemble quand même à une espèce de gruyère. Rappelez-vous, le mec qui devait aller à Lyon là pour chercher un travail et que sa mère derrière, celle qui vendait la cam. Enfin, je crois qu'à un moment donné, tu vois, à Vendin le Vieil. Et je pense que c'est vraiment n'importe quoi de la mis là-dedans. Après, sur le sujet de lui redonner du contact physique au parloir, bah de toute façon, tu peux lui donner contact physique, mais après, tu fais une fouille. tu fais une fouille et puis quitte à faire une fouille rectale s'il veut se foutre une clé USB dans le cul. À un moment donné, c'est ça l'histoire. C'est que derrière, t'as des moyens pour que le mec, bien sûr que tu peux pas déshumaniser un homme, faut arrêter. À un moment donné, tu le mets en prison, tu vas pas lui retirer ses droits humains, ça c'est comme ça. Mais par contre, bah, si le mec, il a le droit à avoir des contacts physiques avec quelqu'un, quand il ressort du truc, eh ben, tu le fouilles de A jusqu'à Z et c'est comme ça. De toute façon, il y a des règles. Mais moi, je ne comprends pas que ce soit pas en centrale. En centrale, il y a assez de place pour prendre des mecs comme ça. Et en centrale, les mecs, ils sont aguerris sur ce type de personnes. Hein.
Alors moi, je suis d'accord qu'il ne faille pas déshumaniser un homme, mais pour moi, ce type de profil, je les mets dans la même case que les pédocriminels. Je regrette que la peine de mort n'existe plus. Je suis désolé de dire ça.
Carrément.
Ah oui, non, mais carrément. Ouais, désolé, je vais choquer les gens. Je suis désolé, le mec. Exactement. Sous une idéologie, il est parti en mission et en plus, il a même pas eu le courage d'aller jusqu'au bout parce que lui, il ne s'est pas fait exploser. Donc moi, je ne comprends pas. À la limite, qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec lui, c'est une personne dont je pense que je pense aux victimes, aux familles de victimes, elles n'ont plus envie d'en entendre parler. Ouais, et effectivement, comme tu dis, je ne comprends pas cette espèce de coup de com' comme pour démontrer que l'État garde la main, même sur ses terroristes les plus dangereux. Ben non, moi je trouve que le message qui est envoyé, il est catastrophique, et ça confirme qu'il y a toujours cette tension philosophique entre un État de droit, entre l'humanité ou la déshumanité de l'individu et le symbole que représente le 13 novembre aussi. C'est quand même l'un des drames les plus importants de l'histoire de France récemment.
Barbara.
Le problème, c'est que cette mesure de parloir sécurisée, elle avait été mise en place après l'histoire de la clé USB. La question du tribunal administratif, c'est de dire comment se fait-il que depuis la garde à vue de Salah Abdeslam au sujet de la clé USB, il n'y a eu aucune procédure qui a été faite. Donc le tribunal administratif lève la mesure de sécurité puisque le juge qui devait faire une procédure pour l'histoire de la clé USB ne l'a pas fait.
Donc on est plus sur une question de délai.
Donc léger dysfonctionnement. Ouais. Comment se fait-il que il n'y ait pas eu de mesure suite à cette clé USB?
C'est plus la lenteur de la justice qu'il faut mettre en cause là.
Oui, clé USB qui lui avait été donc passée par une ex-compagne. Ouais. Et alors maintenant il y a sa nouvelle compagne. Bref, je ne sais pas. Il doit y avoir le Tinder des salafistes djihadistes parce que non, ils ont
tout. C'est un sujet en soi là, cette fascination de certaines femmes pour les.
Mais c'est comme Nordal Le Landais, des femmes en veux-tu en voilà qui leur écrit. Moi je vous dis, il y a des femmes, c'est là-haut, ça va pas fort. Hein. Donc excusez-moi. Hein,
une fascination.
Il y a
des tarés idéologiques.
Il y a des tarés EES. Bon bref. Donc la nouvelle compagne va venir, car la justice nous dit, je cite, il ne faut pas porter atteinte au maintien des liens familiaux. Ah non, mais moi je m'en tamponne complètement des liens familiaux de Monsieur Salah Abdeslam. Papa, maman, la copine, le copain, je m'en fous. Il n'y a pas de liens familiaux pour ce type-là. Mais ça s'appelle comment ce genre de prison? Ça s'appelle la prison Badinter du Pont-Moretti. La prison qui donne le confort des bourreaux, alors que la perpétuité réelle, elle est pour les victimes. Donc moi je ne dis pas qu'il leur faut une prison à la chinoise, à la japonaise. Mais moi j'aime bien la prison japonaise, hein, lumière allumée de 8h à 20h.
C'est ce qu'il avait avant.
Un petit bol de riz.
Et
ben c'est très
un
bien.
Bol de riz, oui.
Et ben c'était très bien. Et ça perpétuité réelle pour Salah Abdeslam. Moi, et ça lui laissera tout son temps pour faire sa méditation, ses prières, tout ce qu'il veut, d'accord. Mais les liens familiaux, je m'en fous du maintien des liens familiaux de Monsieur Salah Abdeslam. Je m'en fous complètement.
Donc, oui, mais enfin.
Je ne veux pas entendre ça. Ça ne m'intéresse pas.
Réponse de la société ne peut pas être non plus la torture, voilà.
Oh la torture, le Japon, c'est tranquille la prison. Regardez Monsieur Carlos Ghosn, bon, il a pas trop apprécié d'ailleurs. Il est parti dans une mallette. Mais
dans une malle de violoncelle.
Ouais, une malle de violoncelle. Bah écoutez, je crois que Salah Abdeslam ne joue pas du violoncelle. Donc
et là,
ça
il a
très bien.
Puisqu'il parle de Carlos Ghosn,
la musique, c'est pas toléré dans sa vision à lui de la religion.
Il a posté sur Instagram. Pardon, mais je fais une digression, désolé. Mais il a posté sur Instagram une vidéo dans laquelle il appelle à venir au Liban. Il vante les délices du Liban. J'ai vu ça passer. Carlos Ghosn,
c'est pas le bon moment, mais enfin.
Parenthèse fermée, parce que tu parlais de déshumanisation, là c'est déshumanisation, simplement de le maintenir à l'isolement et de le maintenir hors contact.
Tu peux pas le maintenir hors contact. Après moi je trouve
pourquoi pas hors contact?
Le sujet c'est que rappelle-toi ce que les Américains ont fait quand ils ont chopé Ben Laden. Ils l'ont tué et ils l'ont mis dans une mer. Ils l'ont mis en mer pour pas que derrière t'en fasses un martyr, un héros. Ben là, en fait, si tu t'attrapes un mec comme ça, Abdeslam, et que tu lui rends tu le martyrises dans la prison plus que certains autres à côté de lui. Après, les gens vont dire, regardez, ils en font une victime, t'en fais un martyr. Après, il y a un sujet, je pense qu'en France, avec les prisonniers politiques ou terroristes, on sait pas s'y prendre. Moi, je suis désolé, mais Yvan Colonna n'avait pas à mourir sous les coups d'un mec qui était à moitié fou à côté de lui.
Exactement.
Yvan Colonna aurait dû être dans une centrale, et Yvan Colonna, à la fin de sa peine, aurait dû sortir comme un être normal qui avait, parce que s'il avait été chopé, et Yvan Colonna, on peut aussi penser qu'Yvan Colonna était peut-être pas forcément coupable de ce qu'il a fait, parce que ça, il y a quand même un sujet là-dessus, on sait toujours pas vraiment.
Bah, moi, je dis pas, je suis pas
juste un fois, truc, hein. Toi qui as assisté au procès.
Attention.
Est-ce que tu penses que Salah Abdeslam a vraiment apporté quelque chose à une meilleure compréhension des attentats du 13 novembre?
Bah, en fait, on est, non, je pense pas.
Il a pas une coopération.
Bah, il a parlé un peu, mais il a pas parlé tant que ça. Mais c'est surtout, c'est que, en fait.
Donc, si on l'avait neutralisé quand on l'a arrêté, ça n'aurait.
Bah, de toute façon, tu peux pas le neutraliser quand ils l'ont arrêté, vu que, en fait, je crois qu'il avait déjà été blessé, je crois, quand ils l'ont attrapé.
Oui, justement.
Tu vois, pour ceux qui nous écoutent, et c'est là, quand même, ce qui doit nous interpeller. Normalement, pour la justice, quand tu vois arriver au greffe ou au tribunal administratif le dossier Salah Abdeslam, normalement, tu dois dire que c'est prioritaire par rapport au dossier Marshall ou au dossier Boyi ou au dossier Lefebvre.
Oui.
Si tu veux, non, donc.
J'espère pas.
Bah, pour vous, j'espère. Ça doit être prioritaire. Tu dis, bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que j'ai ce dossier Abdeslam? Tu regardes.
Oui, mais c'est pas un bâton merdeux.
Tu fais en sorte de pas être hors délai.
Oui, mais
or là, qu'est-ce qui fait que finalement il bénéficie de cette mesure? C'est parce qu'on passe le temps, on passe le délai, donc finalement, boum, c'est presque une erreur, comment on dit, une erreur de procédure aujourd'hui.
Tu sais,
c'est comme le type là, le détenu qui avait été relâché parce qu'on n'avait pas examiné à temps aussi son dossier.
Mais c'est pas
son
le même
dossier.
Cas.
Bah, c'est un peu la même chose.
Non, là, t'es sur un mec qui a vu.
Là, découvre les dysfonctionnements de la justice. Mais le problème, c'est qu'on a une justice qui ne nous rassure plus, qui nous fait peur. Je veux dire, c'est tous les jours. Tous les jours.
Tu dois faire vite.
Regarde, on parlait des jeunes de Fresnes. Il y a quand même une décision de justice qui n'est pas bonne puisque les deux jeunes recommencent. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas compris ce qui s'était passé. Là, pareil, c'est-à-dire que tous les jours, on a quand même des cas de dysfonctionnement.
Oui, mais regarde.
Alors, moi, je pense que la question des moyens, c'est une chose, même si quand même il faut reconnaître que sous Macron, il y a eu un rattrapage budgétaire, parce que c'est vrai que la justice française était un peu le parent pauvre des budgets régaliens. Mais ça n'explique pas tout. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière et revoir un petit peu quand même. Le rôle des juges, parfois certaines idéologies, des juges qui sont peut-être trop syndiqués, des juges qui sont aussi trop sûrs de leur pouvoir.
Ce matin, il y avait un article dans le Béret Républicain, un très grand journal qu'il faut lire tous les jours, mais dans l'article, il y avait un article sur le fait que tu avais des jeunes juges qui démissionnaient, qui ne voulaient plus être juges parce que, au-delà du manque de moyens, c'est-à-dire qu'elles ne voulaient plus juger à la va-vite. C'est-à-dire qu'en fait, on leur donne des dossiers, et dernièrement, t'avais des articles très intéressants sur, par exemple, à Bobigny, où ça finit à 4h du matin, et que les avocats disent, mais moi, j'ai commencé le matin à 9h et à 4h du matin.
C'est ce que vous avez dit, Trévidic. Merci, le juge Trévidic.
Et donc aujourd'hui, t'es sur un dossier où tu te rends compte que même les juges, les jeunes juges, qui certainement ont fait ce boulot-là en ayant cette vocation de se dire, je vais faire un truc intéressant et important pour mon pays, le mec, à 20, il y avait le témoignage.
Et c'est qui d'autre qui démissionne? Les médecins à l'hôpital public.
Mais pareil.
Parce qu'ils soignent plus dans les bonnes conditions, les
profs,
les infirmiers.
Plus en plus de profs,
les profs, ils démissionnent. Bah oui, le service public a été dégradé.
D'accord, mais t'as une priorisation des dossiers aussi.
Moi, je pense que pour Salah Abdeslam, il y a
un peu d'affaires aussi.
Oui, mais t'as trop d'affaires quand t'as le dossier Salah Abdeslam qui arrive, bah tu le mets sur le devant de la pile.
Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, le procès étant fini et comme ils n'ont pas fait appel, moi, je suis convaincu que la plupart des gens dans la justice française ne veulent plus entendre ce nom-là. Donc, quand ce nom-là arrive, j'ai l'impression qu'on se dit, on touche pas à ça.
Eric veut en discuter avec nous. Eric est électricien du côté de la Nièvre. Bonjour Eric.
Bonjour à tout le monde.
Comment vous avez réagi Eric, dites-moi.
J'ai eu des frissons de la nuque jusqu'aux orteils parce que pour moi c'est un crachat à la figure des familles des victimes qui elles n'auront plus la possibilité d'embrasser leurs proches, et là on va donner la possibilité à Salah Abdeslam de le faire. Mais dans quel monde on vit? La continuité en fait du sujet qui était juste avant avec les gamins de Fresnes et maintenant avec Abdeslam, excusez-moi, je vais inventer un mot, mais c'est la guimauverie de notre justice. Notre justice est devenue une guimauve. Le proverbe qu'on entend souvent d'ailleurs, c'est fort avec les faibles et faible avec les forts. Mais c'est en permanence ça, c'est devenu insupportable. Ce mec-là, je suis tout à fait d'accord avec Abdel, avec Abel, ce mec-là, il faut le... Mais comme les pédocriminels, il faut le zigouiller ou alors.
Non,
parce que le tribunal administratif estime que justement parce qu'il est à l'isolement.
C'est aux familles des victimes de décider. C'est aux familles
des victimes de
décider. Je vous explique la décision. Le tribunal administratif estime que comme il est déjà placé à l'isolement, donc il ne voit personne, a priori, il a le droit à ses parloirs avec contact physique.
Les familles n'ont pas le droit aussi de plus entendre parler de ce genre. Rien
ne pourra soulager la peine des familles.
Non, mais elles ont aussi le droit de vivre maintenant en paix et de plus jamais entendre le nom d'Abdeslam.
Ça, je suis bien d'accord avec vous. C'est toujours mieux quand on arrête aussi de donner leur nom. Notamment, par exemple, l'assassin de Toulouse, le terroriste de Toulouse. Il ne faut plus donner son nom à lui, ni à lui, ni à ses frères, ni à sa famille.
Parce que le processus de deuil,
ces gens-là,
il
faut les oublier dans les
c'est quand même quelque chose, hein, la cicatrisation inhérente au deuil. Chacun la vit de façon très différente. Mmh. Et je suis désolé, vous vous souvenez, on a reçu l'auteur du livre Journal d'un maton. Mmh. Dans le bouquin, il y a un chapitre où il explique que il y avait un directeur de prison algérien qui était venu là où il travaillait. Et le directeur de prison algérien était étonné de comment on n'était pas assez dissuasif en France. Il a dit, mais en Algérie, la prison, elle fait tellement peur. Les prisonniers sont pas traités comme en France. Et pourtant, on se plaint des conditions inhumaines des gens en France ou autre. Mais je suis désolé. En Afrique, les prisonniers, est-ce que ça réduit la délinquance?
Parce que tu parles de la peine de mort, Abel. Mais l'efficacité de la peine de mort, l'inefficacité de la peine de mort a été démontrée. Ça n'a jamais fait diminuer la criminalité.
Il est là, Sébastien Pitot. Il nous a appelé au 3216, l'ancien surveillant de prison, qui était venu nous présenter son livre. Bonjour, Sébastien.
Bonjour, ça va?
Oui,
bonjour.
Ça va. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Abdeslam, là, alors?
Bah, écoutez, moi, on avait évoqué justement la suppression des parloirs, les parloirs hygiaphones. Moi, j'y suis pas favorable, quel que soit l'individu. Après, on peut utiliser aujourd'hui des portiques à ondes millimétriques pour les familles comme pour les détenus. Donc, c'est vraiment pas un problème à ce niveau-là. Après, j'entendais à un moment donné, je sais plus qui est intervenu sur la situation, bah, pas les avocats. Ben, si, les avocats, parce que les avocats, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont véreux, qui sont problématiques, et je pense qu'il faut traiter les avocats au même titre que les familles sur les conditions d'accès. J'ai entendu quelqu'un parler de Carlos tout à l'heure, et Carlos, on le sait pas beaucoup, mais la femme de Carlos,
oui,
c'est
son avocat, c'est l'avocat de tous les terroristes.
Donc voilà, vous voyez, je pense qu'il faut arriver à relativiser certaines choses.
Rappelez-vous, Sébastien, monsieur Pitot, quand Georges Ibrahim Abdallah, il recevait toute la clique dans sa cellule, carrément. On ouvrait la cellule et puis ils venaient tous faire des selfies avec Georges Ibrahim Abdallah. Excusez-moi, il y a un gros problème quand même de considération de certains terroristes dans notre pays, hein. Voilà. Il y a une espèce de fascination d'un certain nombre de gens pour ces espèces de maboules islamistes et islamo-gauchistes qui quand même posent certaines questions. Hein.
Mais la faute simplement du laxisme. Vous savez, moi j'ai gardé Carlos pendant des années. Quand Carlos reçoit des colis de cigares qui arrivent de la Havane et qui sont tolérés par le gouvernement, parce que là c'est le gouvernement, c'est plus le personnel pénitentiaire ou les directions. Mmh. Comment peut-on faire?
Merci,
Sébastien
qui nous a appelé. Sébastien Pitot, l'ancien surveillant de prison, on vous conseille son livre, hein, Journal d'un maton, la vérité sur la corruption au cœur des prisons, aux éditions Fayard. Merci d'avoir été avec nous, Sébastien. Dans un instant, là, on s'en fout pas, il est 10h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Vous êtes sur RMC, et la radio, RMC Story, la télé, et vous êtes aussi sur YouTube, puisque les grandes gueules sont de plus en plus regardées sur YouTube. Donc, une fois que l'émission est terminée, vous pouvez nous retrouver sur ce réseau social, cette plateforme vidéo. Donc, RMC, la radio, RMC Story, la télé, le canal 23 de la TNT, YouTube, plus Twitter, enfin X, pardon, plus Instagram, plus YouTube, bref.
YouTube.
Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit YouTube. Tu dis YouTube?
Ah non, c'est toi qui as dit YouTube.
Je n'ai pas dit ça.
Moi aussi, t'as dit
rigole, j'ai un accent parfait.
Oui, c'est vrai.
YouTube. Barbara Lefebvre, Abel Boyi, Bruno Poncé. Voilà notre 3 GG. On accueille Anaïs Inès Sainz.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
C'était bien le Jura avec Consigny.
C'était super.
Ah ouais, tu balances comme ça, toi, ouais, la vie privée de,
elle poste ça sur les réseaux sociaux.
Non, pas du tout. J'ai juste mis des photos de paysages. Bon, les GG, le
tu
pilote.
Le Jura.
Le pilote. Je vous ai rapporté du comté. Le pilote, dont le chasseur bombardier F-15 a été abattu vendredi en Iran, a été secouru par les forces armées américaines dans la nuit de samedi à dimanche. Est-ce qu'on s'en fout pas, Barbara?
On s'en fout pas.
Abel?
On s'en fout pas.
Et mon cher Bruno?
Non, non, on s'en fout pas du tout.
36 heures de chasse à l'homme pour l'Iran et d'une opération de grande ampleur pour l'armée américaine qui s'est soldée donc par le sauvetage de ce colonel. Plusieurs centaines de soldats, des forces spéciales, des dizaines d'avions de combat, des hélicoptères, mais aussi des capacités de renseignement spatial ont été déployés très vite. C'est la CIA qui le localise. Il était réfugié en fait dans une crevasse, grièvement blessé à la cheville. Le pilote a été forcé de parcourir 12 kilomètres à pied donc et même escalader une crête à plus de 2000 mètres d'altitude dans un territoire évidemment très hostile. Une victoire incontestable pour Trump, Barbara ?
Oui, tout à fait. Déjà, bravo à ce colonel. En même temps, il a été entraîné pour ça.
Il est gravement blessé.
Il est gravement blessé.
Une écharde.
C'est une entorse.
C'est vraiment.
Gravement non, mais blessé, c'est une entorse.
Oui, non,
c'est
non,
une entorse.
Avec, oui, c'est non, mais avec une fracture sans doute, etc. Oui. Bon, peu importe. En tout cas, bravo.
Didier François.
Et moi, ce qui m'a surtout marqué lors de ce week-end d'information, c'est les mines déconfites de certains chroniqueurs, journalistes sur certaines chaînes qui vraiment étaient déçus qu'on le retrouve. Je sentais que ce qu'ils auraient voulu, c'était qu'on l'exhibe avec un bonnet noir dans les rues de Téhéran. Là,
mais
ça aurait
fait... sujet,
si, si, non, si, c'est le sujet. Parce qu'il y a un moment...
Je trouve qu'il y a trop d'anti-américanisme chez certains commentateurs et spécialistes.
Oui, je trouve. Alors, heureusement, ça a été compensé au fur et à mesure de la journée, parce que vraiment, au début, on sentait la déception. Hein, on l'a retrouvé. Alors que surtout, la plupart nous avaient expliqué qu'on n'allait jamais le retrouver.
C'est surtout ça. C'est personne
on n'allait jamais le retrouver. Trump, il était dans la mouise. L'armée américaine, elle était par terre. Enfin bon. Et hop, le lendemain, en même pas 12 heures, on le retrouve et l'armée américaine montre sa grandeur, excusez-moi, et sa technique incroyable. Donc
c'est
moi, je veux bien.
C'est une humiliation d'ailleurs pour les gardiens de la Révolution, pour les passes d'armes.
Oui, bah, de toute façon, ça fait un mois qu'ils sont humiliés, mais il y a quand même des gens sur les plateaux télé pour nous expliquer. Ah, vraiment, hein, les Iraniens, l'armée iranienne, extraordinaire, extraordinaire. Bon, ils résistent avec ce qu'ils ont, mais on sait très bien la supériorité.
Pas gagné.
Donc moi, je suis juste ravie et j'aimerais bien que certains chroniqueurs essaient de dissimuler quand même un petit peu plus, s'ils le pouvaient quand même, leur haine de l'Amérique, et du coup, leur compassion pour les mollahs. C'est juste ça.
Ce sera un film sur Netflix
exactement,
ou Amazon dans 8 mois.
Moi, je verrais bien Abel Bouilly dans le rôle.
Il a marché 12 kilomètres avec une entorse.
Mais Abel, il s'est caché
dans une crevasse et puis il a escaladé une montagne à moins 15 degrés parce qu'il fait moins 15. Non, blague à part. Évidemment que je suis content qu'il soit sain et sauf. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, on est plus à commenter le fait que Trump a sauvé ses fesses par rapport au midterm qui arrive et on ne parle plus du peuple iranien. Moi, c'est ça qui me gêne parce que ça reste quand même.
Il a rien sauvé.
Oui, mais bien entendu, mais c'est le message ambiant qui est donné, c'est-à-dire que par rapport au mid-term, Trump a sauvé la face au moins. Donc, moi, j'aimerais qu'on revienne sur l'objectif initial de l'intervention qui était le peuple iranien, le changement de régime suite à une boucherie qui a duré 2 semaines et demie, 3 semaines, et on est en train un petit peu de perdre
Bruno.
La boule, quoi.
On peut que se réjouir quand même qu'un homme se retrouve pas otage de qui que ce soit. C'est quand même la base de tout humanisme. Après, le comme le dit Abel, le sujet c'est que à côté de ça,
pas sûr qu'il aurait eu un parloir lui en Iran.
Je suis pas sûr. Puis quand on voit comment les gens sont traités là-bas, c'est leur propre peuple comment ils sont traités.
Tous les jours ils pendent des jeunes. Hein.
Mais moi ce que je trouve incroyable, c'est aujourd'hui, c'est que
en otage les gens.
Moi ce qui m'a surtout au-delà de ça, c'est que moi j'ai entendu Trump qui disait qu'il allait faire déchaîner l'enfer sur l'Iran. Déjà, je pense que Trump risque de se faire bombarder par Netanyahou parce qu'il a quand même dit que Allah était grand. Alors, dire ça, c'est quand même des trucs que t'entends toujours.
Ah oui, quand t'es sur son réseau
il s'est un peu enflammé là-dessus, je trouve. Je sais pas ce qui arrive, il a vrillé.
Il
a démonté, il démonte des installations civiles. Et le peuple iranien, c'est pas comme ça que tu vas le faire le libérer, en fait. Quand tu défonces les ponts, quand tu défonces eux, et les autres se sont certainement réfugiés dans un endroit où ils sont très tranquilles et qui doivent regarder ça
là,
de loin.
Ils viennent de tuer le chef des renseignements des gardiens de la Révolution.
Voilà.
Encore un de moins. Et quand monsieur Trump dit que les mollahs et les gardiens de la Révolution, c'est une bande de tarés, excuse-moi, il a bien raison.
Voilà. Les GG, Samir Nasri dans le viseur du fisc. L'ancien international français réside à Dubaï où les habitants ne payent quasiment pas d'impôts. Mais le Trésor public le soupçonne d'habiter en fait Paris, ce qui changerait évidemment tout sur les sommes dues à l'État français. Alors comment Bercy a pu avoir la puce à l'oreille? Grâce aux commandes Deliveroo. 212 livraisons de repas passées sur l'application en seulement un an. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara?
Ah non, on s'en fout pas.
Bruno?
Non, on s'en fout pas.
Abel?
On s'en fout pas.
Et si les faits sont avérés, hein, le Marseillais de 38 ans risque un gros redressement fiscal, 5,5 millions d'euros, dont 5,25 de rappel d'impôt sur le revenu pour la période 2020-2022. Bruno Poncet.
Mais je trouve ça dommage qu'il n'ait pas quelqu'un qui lui expliquait que défiscalisant dans l'Alaska du bail, c'est déjà, c'est pas bien, mais bon, fais-le. Par contre, quand t'es en France, bah, tu commandes pas chez Deliveroo.
T'apprends à cuisiner.
Bah, ou alors tu vas dans le coin de ta rue et puis tu fais venir le mec qui est peut-être à 100 mètres de chez toi. T'as un copain qui le commande à son nom. Enfin, tu fais des trucs pour pas se faire gauler. Mais 200 fois, sachant que lui.
200 sur une année?
Ouais.
Sachant que lui, tu sais, regarde.
Il bouge pas souvent de son canapé, mais ça n'y
en a pas. Quasiment tous les deux jours, il mange des champions.
Tu regardes les soirées de Ligue des Champions, t'as environ, on va dire, 30 soirées de Ligue des Champions. Donc 30 soirées, Nasri, il est là ou 30 soirées. Donc déjà, tu sais qu'il est là 30 jours par semaine. J'imagine qu'il arrive pas le matin, qu'il part pas le soir.
Par an.
Donc ouais, t'imagines,
par an. 30 jours par an,
ouais. Par an. Donc t'imagines
parce
bien
qu'une
quand
semaine,
même que,
c'est 7 ouais, jours. Ouais, voilà.
Mais moi, je sais pas, ça dépend dans quel pays t'habites. Ouais. Mais voilà, nous, à Véran, c'est pas comme ça. Mais en fait, tu vois, et je me dis, qui c'est qui le conseille
en fait? Bravo le fisc, ce sont de fins limiers quand même.
Ah, oui,
ils épluchent les notes et puis ils arrivent à quand même à tomber sur effectivement une escroquerie. Hein, parce
tu m'excuses, monsieur Samir Nasri, il passe pas par l'aéroport. Donc déjà, rien qu'avec les entrées, les sorties, tu dois bien voir qu'il est là ou qu'il n'est pas là.
Mais ça ne veut pas dire qu'il habite là.
Hein?
Ah, mais parce que quand tu es en jet, tu passes pas par. On t'identifie pas quand tu rentres.
Tu déclares pas forcément qui c'est qui est derrière.
Ah, bah, formidable. Non, mais c'est de mieux en mieux. Alors, entre les pseudos pour être député et les je viens en jet, personne ne me voit. Non, mais de mieux en mieux. Vraiment. Non, mais les bras m'en tombent.
Non, mais c'est rigolo quand même.
Bah oui, c'est vrai. Mais c'est con surtout. C'est con. Oui, c'est-à-dire que, comme tu dis, tu commandes Deliveroo, passe par quelqu'un. On a eu des grands hommes politiques qui commandaient de la cocaïne en envoyant leur chauffeur, tu vois, donc pour du Deliveroo, envoie quelqu'un et en plus, il commente énormément de matchs de foot sur Canal+, il participe à énormément d'émissions, donc tout ça corrélé fait qu'effectivement, il y a des grandes chances qu'il ait du mal à prouver qu'il n'est pas résident français.
Je pense plutôt que les services fiscaux se sont servis des factures Deliveroo pour continuer à prouver, parce qu'à mon avis, c'est surtout que il avait été remarqué qu'il était souvent en France via la télé, via les commentaires, et disons que Deliveroo est un levier technique et pratique pour prouver qu'effectivement, qui plus est, s'il se fait livrer, il est vraiment en France. Maintenant, je pense qu'il n'est pas le seul, me semble-t-il, dans le milieu du football et dans le sport en général, et pas que dans le sport aussi, dans
millions,
le business, dans le business politique, dans le business politique, notamment de certains qui voudraient courir en 2027, à aller défiscaliser et aller chercher de l'argent dans le golf.
Il a peut-être prêté son compte Deliveroo à des proches.
Oui, voilà. Non, ça doit être ça.
Ah non, là, ils sont capables de dire que c'est lui.
Bah, c'est son compte bancaire.
C'est son compte bancaire, donc voilà.
En tout cas, on a compris qu'il ne savait pas faire à manger. Enfin,
200 livraisons.
Il ne se pose pas la question, par contre, j'imagine lui aussi qu'il est très sensible à certaines causes. Il ne se pose pas la question de, je rappelle le film, le très beau film Souleyman, du nombre de Souleyman qu'il a exploité en faisant Deliveroo, hein, de tous les sans-papiers qui sont sur des vélos et qui sont des esclaves modernes. Non, mais c'est ça! Parce que tous ces gens, bien tranquilles à la maison, le portefeuille bien rempli.
T'as jamais commandé?
Non, jamais. Alors ça, certainement pas. Je ferai pas pédaler un pauvre gars, qui souvent,
sous-traite sa carte. J'ai jamais commandé.
Ah, bah non. Bah, regarde le film Souleyman et tu verras que c'est pas ça. Ah, bah, beaucoup sont, on est presque à il y a une étude qui a été menée, presque 50%, c'est des sans-papiers qui sont exploités sur les vélos.
J'ai un rendez-vous à vous donner pour le Face au GG tout à l'heure. Olivier, tu as le livre sous la main. C'est notre confrère Patrick Cohen qui sera avec nous tout à l'heure. Patrick Cohen qui s'en prend aux mystificateurs depuis des années, ces pseudo-scientifiques qui viennent pérorer et sur les plateaux de télévision.
Le Covid, le réchauffement climatique.
Notamment. Donc, Patrick Cohen sera avec nous tout à l'heure. Il nous parlera de son audition devant la commission des affaires de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public. Allez, à tout de suite avec les grands gueules.
Non, pas Jérôme Marty.
C'est 9h midi. Les grandes gueules.